Pour la prédication de ce matin, de ce dimanche consacré à la mission, je propose de lire dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il s'agit d'un passage où l'apôtre Paul exprime ce qui le motive dans sa mission d'annoncer l'Évangile, ce qui le détermine dans sa manière de travailler pour le Seigneur. Alors l'apôtre Paul dit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cette lettre, l'apôtre Paul l'a écrite dans les larmes, selon ses propres termes. Car son fardeau pour cette église était énorme. Il dit au chapitre 2, verset 4, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Et c'est vrai qu'en plus des problèmes difficiles que l'apôtre Paul a rencontrés au sein de cette église, il a dû faire face aussi à une vague de méfiance à son égard. Certains mettaient en doute sa sincérité et son engagement apostolique. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrit cette lettre dans laquelle il ouvre leur cœur à ces chrétiens de l'église de Corinthe pour défendre son ministère, pour défendre son apostolat. Et en même temps, il dévoile la source de sa motivation et de sa mission, de sa passion pour l'œuvre missionnaire qu'il accomplissait un peu partout, même au sein de cette église. Et c'est là, frères et sœurs, que ce passage semble être intéressant pour nous ce matin, ce dimanche de la mission. Car lorsqu'on parle aujourd'hui du travail missionnaire, de la mission, de l'engagement missionnaire qui doit être le nôtre, on a parfois l'impression que la motivation n'y est plus. Ou en tout cas, que l'élan missionnaire d'autrefois semble avoir perdu un peu de sa force, beaucoup même de sa force. Ce n'est peut-être pas le cas de notre église ici à Clermont-Ferrand, car nous avons eu la chance, le privilège d'avoir ce couple missionnaire, la famille Turquet, pendant plus de 25 ans, n'est-ce pas? Et cela a obligé, en quelque sorte, je mets obligé entre guillemets, notre église à accompagner leur ministère en Afrique pendant toutes ces années. Mais c'est vrai que notre commission missionnaire nationale dont je fais partie s'interroge sur l'engagement missionnaire de nos églises aujourd'hui. Et on se demande souvent ce qu'il faut faire pour intéresser davantage les églises au travail missionnaire. Encourager les prédicateurs et les pasteurs à prêcher davantage, en tout cas de temps en temps, sur l'ordre missionnaire donné par Jésus-Christ aux églises, d'aller partout dans le monde faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner à observer tout ce que le Christ a prescrit. Oui, bien sûr, c'est un ordre qui vient de la parole de Dieu et du Christ. Il faut le rappeler de temps en temps. Encourager les chrétiens à lire des livres écrits par d'éminents théologiens pour dynamiser l'esprit missionnaire, ou alors lire les biographies de ces grands missionnaires d'autrefois, n'est-ce pas, William Kerr, Hudson Taylor, David Livingstone et tant d'autres. Ce sont sans doute des livres qui peuvent nous inspirer. Ils ont été toujours une grande source d'inspiration pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Ceci dit, même si ces choses-là sont nécessaires pour éveiller notre esprit missionnaire, notre motivation, j'ai l'impression que notre motivation, notre élan missionnaire ne peut pas venir uniquement de là. Pour être une église véritablement missionnaire, et non pas démissionnaire, je dis bien missionnaire, il nous faut une autre source de motivation plus profonde. Alors qu'est-ce qui peut attiser le feu pour la mission aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut provoquer un réveil dans nos cœurs? Qu'est-ce qui peut redynamiser notre esprit missionnaire, l'esprit missionnaire de nos églises aujourd'hui? Que faire pour que l'Église devienne, selon l'expression de Moltmann, semblable à une flèche vers l'avenir envoyée au dehors dans le monde? Une chose est sûre, et je pense que vous avez pris conscience de cela. D'ailleurs, Michael tout à l'heure a fait une prière dans ce sens. C'est que l'Église est née de la mission. L'Église est née de la mission et elle vit de la mission. J'aurais dû dire elle vit de, par et pour la mission. Le théologien Émile Brunner le rappelle très justement quand il dit, je cite, que l'Église existe par la mission comme le feu existe en brûlant. L'Église a donc tout intérêt à retrouver son élan missionnaire pour le monde qui l'entoure. Et cet élan ne peut venir que d'une compréhension juste de l'enseignement de la parole de Dieu, du message de l'Évangile tel qu'il nous est présenté dans la parole de Dieu, la Bible. Évangile, il faut le dire, sans lequel le monde serait irrévocablement perdu. Or, ce passage écrit par le plus grand missionnaire de tous les temps, l'apôtre Paul, nous dévoile justement la source la plus profonde de toute motivation missionnaire. Il y a trois phrases dans ce passage qui résument fort bien, je dirais, les trois grands motifs qui pressaient l'apôtre Paul à faire ce qu'il faisait pour annoncer l'Évangile partout. D'abord, au verset 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, c'est tous, n'est-ce pas? Tout le monde, toutes les personnes sur cette terre. Au verset 14, l'amour de Christ nous étreint, dit-il. Et au verset 20, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Il s'agit donc, selon lui, de la solennité du jugement de Dieu. L'apôtre Paul savait, il était convaincu que tout le monde devait passer devant le jugement du Seigneur, un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, il parle dans ce passage de la crainte du Seigneur, n'est-ce pas? De l'amour de Christ pour les hommes, amour sans lequel le plus éloquent prédicateur n'est qu'un errant qui résonne. Et troisièmement, du fait que le Christ nous a confié une mission sur cette terre. Il le dit, celle d'être des ambassadeurs. On peut le dire d'autre manière. Ici, dans ce texte, il dit que nous sommes des ambassadeurs pour le Christ dans ce monde. Je disais tantôt que le feu pour la mission ne peut venir que d'une compréhension juste, fondamentalement biblique de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Église ne se remettra pas à évangéliser le monde que si elle est absolument convaincue de l'importance fondamentale, je dirais même impérieuse, de l'évangile pour les hommes, pour l'humanité. L'importance fondamentale, impérieuse que revêt l'évangile pour chaque personne sur cette terre. La Bible affirme que tous les hommes comparaîtront devant le tribunal de Christ. À l'Aréopage d'Athènes, l'apôtre Paul dit aux Athéniens, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. » On pourrait continuer à citer des versets qui parlent du jugement de Dieu. Je pense que la Bible est très claire là-dessus. Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. Tous les hommes, dit la Bible, passeront devant le tribunal de Christ pour répondre de leurs actes, de leurs actions sur cette terre. Or, la Bible nous dit aussi que la seule possibilité d'échapper à la condamnation divine, c'est de se réconcilier avec Dieu. Encore pour citer une phrase de ce texte, se réconcilier avec Dieu. Sans la réconciliation avec Dieu opérée par l'œuvre de Christ à la croix, la Bible nous dit que nous serons perdus pour l'éternité. Nous serons perdus pour l'éternité, car depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à la volonté divine, l'homme vit séparé, éloigné de Dieu, dans le péché, dans la désobéissance. Il fait sa propre volonté et non pas celle de Dieu. Et à cause de cela, l'homme est coupable. L'homme est coupable et il vit sous la condamnation et sous le jugement de Dieu, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui ne supporte pas le péché. Et la Bible nous dit que le seul moyen d'échapper, d'y échapper et d'être sauvé, c'est de se repentir de ses péchés, de se tourner vers Dieu, de s'approprier par la foi ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix en faveur de l'humanité. Et à ce propos, l'apôtre Paul dit au verset 19 et 21, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire le Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible affirme de manière catégorique qu'il n'y a aucun autre moyen de salut qu'en Jésus-Christ. Il est le seul qui est mort sur une croix pour payer le prix des péchés de l'humanité tout entière. Il est le seul qui est ressuscité après sa mort pour montrer qu'il y a une vie après la mort, en tout cas après cette vie ici-bas, n'est-ce pas? Il n'y a de salut en aucun autre, dit l'apôtre Pierre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et tous les autres apôtres ont enduré beaucoup de souffrances, beaucoup de sacrifices, et se sont même montrés prêts à aller jusqu'à la mort, et certains d'eux ont payé de leur vie, n'est-ce pas, le fait d'aller partout annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul supplie les chrétiens, les gens, de se réconcilier avec Dieu. Au verset 20, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, nous vous en supplions. C'est urgent. La réconciliation avec Dieu est urgente. Alors, frères et sœurs, si l'on met en doute que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde, si l'on minimise les conséquences du péché, si l'on minimise la mort du Christ sur la croix, son sacrifice et sa résurrection, si on ne croit plus à la condamnation éternelle du pécheur sans Christ, on n'aura aucun zèle pour la mission. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si, comme dit la chanson, on ira tous au paradis, à quoi bon perdre notre temps, n'est-ce pas, et notre énergie à témoigner, à évangéliser, à envoyer des missionnaires un peu partout, à créer des églises là où il n'y en a pas, à envoyer des missionnaires dans des pays où ils risquent leur vie. Et notre frère Ayrton a déjà risqué sa vie, il a échappé alors que deux gardes du corps ont été tués. Pourquoi soutenir des missionnaires, n'est-ce pas, à Cuba et ailleurs, alors qu'il faut laisser ces peuples tranquilles, hein? Ils ont leur religion. Parce que sans Jésus-Christ et sans la réconciliation avec Dieu par le Christ, les hommes sont condamnés, ils sont perdus à cause du péché. Lorsqu'au XVIIIe siècle, William Carey, chrétien baptiste anglais, je profite pour dire que nous, les baptistes, nous devons beaucoup, et même les autres églises doivent beaucoup à nos frères, à nos ancêtres anglais. Donc, ce missionnaire, William Carey, lorsqu'il a eu sa vision pour le travail d'évangélisation du monde, et il l'a eu grâce au récit du capitaine Cook, n'est-ce pas? Cet homme qui était un cordonnier, ce n'était pas un diplômé en théologie, c'était un cordonnier, il a eu un appel pour le travail missionnaire. Il a eu cette vision de ce monde perdu au loin qu'il fallait sauver. Il ne pouvait pas supporter que ces peuples des îles du Pacifique meurent sans avoir eu connaissance de l'évangile, de Jésus-Christ, du Sauveur. Et lorsqu'il s'est levé un jour dans une assemblée pastorale pour proposer la constitution d'une société missionnaire, vous savez ce que le président de cette pastorale lui a dit? Jeune homme, assieds-toi. Assieds-toi. Si Dieu veut convertir les païens, il peut le faire sans toi et sans moi. Assieds-toi, jeune homme. Et il a été traité de fanatique. Il a été traité de fanatique. Heureusement que William Carey ne s'est pas arrêté à des propos négatifs sur ce qu'il fallait faire. Il a eu un appel pour le travail missionnaire, il fallait aller, n'est-ce pas? Il ne s'est pas laissé arrêter par le manque de compassion de certains pasteurs, par le manque de compassion de ses contemporains pour les âmes perdues, leur manque total de vision missionnaire. Et il a décidé d'offrir sa vie au travail missionnaire. Et finalement, il a été envoyé en Inde. Et il a donné beaucoup d'années de travail en Inde. Et avec 30 ans plus tard, avec trois autres collègues, deux ou trois autres collègues, il avait traduit la Bible entière en six langues, dont le sanskrit et le chinois, et le Nouveau Testament en 23 autres. Et ils ont créé une église indienne qui porte encore ses fruits aujourd'hui. Une église qui n'est pas sûre du message qu'elle prêche ne se fera pas de soucis pour les âmes perdues, pour ceux qui dans le monde meurent sans Christ et sans espérance. Pour être missionnaire, une église doit revenir au message fondamental de l'évangile. Le feu pour la mission nous vient aussi et surtout de l'amour de Christ pour les hommes. L'apôtre Paul dit, car l'amour de Christ nous étreint, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et l'apôtre Paul explique ce qu'il appelle l'amour du Christ dans ce texte. Il s'agit de l'amour qui a été manifesté à la croix lorsque le Christ a donné sa vie en rançon pour le péché de l'humanité tout entière et qu'il est ressuscité pour le salut de tous, ce qui constitue le fait le plus remarquable, n'est-ce pas, de l'histoire du monde. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme sans péché, a porté sur lui sur ses épaules les péchés de l'humanité tout entière. Et grâce à son sacrifice, le péché a été puni en lui, en sa personne, car il fallait que le péché soit puni et que la justice de Dieu s'accomplisse, parce que ce Dieu d'amour est un Dieu de justice aussi, est un Dieu juste. Et ainsi Dieu a annulé en grâce le péché qui nous séparait de lui. La motivation pour la mission nous vient de l'impact que ce message de la croix exerce dans nos vies. L'apôtre Paul affirme que c'est l'amour de Christ qui l'étreint, qui le presse, c'est-à-dire l'amour de Christ qui l'émeut, le contraint, le tient lié, le domine, le presse à aller prêcher le message de la réconciliation et à convaincre les hommes à se réconcilier avec Dieu. C'est l'amour de Christ qui exerce cette influence forte, dynamisante dans la vie des chrétiens pour nous pousser à aller annoncer l'évangile à ceux qui nous entourent. Un peu comme le psalmiste qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Cet amour, frères et sœurs, est un amour donc apte à émouvoir le croyant, bien sûr, mais surtout à le mouvoir et à le faire vivre non pas pour lui-même, mais pour celui qui l'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui l'a aimé et donné sa vie pour lui. L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire ceci, « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Devant cet amour immense manifesté, là où le péché a abondé, annoncer l'évangile ne saurait être un sujet de gloire, mais une nécessité, comme le dit l'apôtre Paul lui-même, n'est-ce pas, une nécessité qui s'impose à tous les chrétiens, comme elle s'imposait à l'apôtre Paul qui s'exclamait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, c'est pas malheur aux autres, c'est malheur à moi si je n'annonce pas cette bonne nouvelle qui a transformé ma vie. » Si l'amour du Christ nous presse, l'urgence de la mission s'impose à nous. Et c'est en entrant résolument, dans cette urgence que l'Église retrouve sa pleine identité. La mission, c'est donc la réponse de l'Église, notre réponse à l'étreinte de l'amour du Christ pour nous, mais aussi de l'amour du Christ en nous, amour que le Saint-Esprit déverse abondamment dans nos cœurs, dit l'apôtre Paul. Le feu pour la mission nous vient enfin de l'honneur que le Christ nous fait de nous associer à son œuvre en faisant de nous des ambassadeurs, ses ambassadeurs. Au verset 20, il conclut en disant « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Vous savez qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui travaille au sein d'une ambassade, quelque part, dans un pays, n'est-ce pas, et qui représente les autorités de son pays dans cet autre pays. Il représente le gouvernement, le président de la République, donc les autorités de son pays. Alors nous pourrions dire que selon cette image de l'apôtre Paul, notre chef à nous, notre autorité suprême, notre roi, notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur son trône de gloire. L'ambassade, c'est l'Église de Jésus-Christ dans le monde, parce que l'Église de Jésus-Christ n'est qu'une agence, n'est-ce pas, du règne de Dieu. Elle est là pour annoncer la bonne nouvelle. L'Église qui a une mission spéciale sur cette terre, de prêcher la réconciliation des âmes avec Dieu. Et les ambassadeurs, c'est nous les chrétiens, les membres de cette agence, de cette église, n'est-ce pas? Nous les chrétiens qui accomplissons la volonté de notre souverain roi sous son autorité. Volonté que nous devons accomplir le plus fidèlement possible. La mission qu'il confie à ses ambassadeurs, c'est, dit le verset 18 et 19, le ministère de la réconciliation. C'est la parole de la réconciliation, dit l'apôtre Paul. L'exhortation que nous devons annoncer partout aux hommes, c'est de se réconcilier avec Dieu. Autrement dit, la mission de l'Église est de faire des disciples dans le monde, pour citer l'ordre missionnaire du Christ, en prêchant la parole de la foi, comme dit l'apôtre Paul, et la réconciliation. Et c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole du Christ. Cette parole doit être entendue partout, partout, pour que les hommes puissent la recevoir dans leur vie, croire et se réconcilier avec Dieu. Ça vaut la peine encore de lire le passage qui a été lu tout à l'heure par Wilfried, dans la lettre aux Romains chapitre 10, où l'apôtre Paul dit ceci, « C'est la parole de la foi que nous prêchons. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et après, l'apôtre Paul pose cette question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce texte nous dit clairement ce que nous devons faire en tant qu'Église, n'est-ce pas? Envoyer des personnes à annoncer la bonne nouvelle. L'Église de Jésus-Christ ne retrouvera sa force et sa vigueur qu'en se recentrant sur ce que constitue sa profonde raison d'être. Aller sur les routes humaines, prêcher l'amour du Christ et la réconciliation avec Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit la Bible, et parviennent à la connaissance de la vérité. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour les autres, pour le monde. Elle doit aller vers ceux et ceux pour qui la nouveauté de l'Évangile demeure encore inconnue, étrangère. L'Église est au service du dessein de Dieu pour le monde. C'est elle qui continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même. Le Christ qui a été envoyé, nous dit l'Écriture, pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la même route qu'a suivi Jésus-Christ lui-même, que poussé par le Saint-Esprit, l'Église peut accomplir sa mission dans ce monde. Alors, frères et sœurs, que le Saint-Esprit allume dans nos cœurs le feu pour la mission, afin que l'Église devienne une Église porteuse d'espérance et de salut pour ce monde qui se perd et qui nous entoure. Que le Seigneur bénisse sa parole.